À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Les paradoxes dans l'Évangile », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Il faudrait nous remémorer les images ou les idées que nous nous faisions de Dieu dans notre enfance pour saisir la difficulté de concevoir et de parler de lui. Notre langage et notre pensée n'arrivent jamais à saisir adéquatement la réalité de Dieu. Nous ne saurions définir l'infini. Nous ne saurions imaginer le tout autre. La connaissance que nous avons de Dieu est toujours négligeable par rapport à ce que nous ne connaissons pas de lui. Nous ne percevons guère que la frange, qu'un reflet de ce qu'il est, et notre intelligence n'en finit pas de désirer de connaître la face cachée de son être. Comme disait saint Augustin, on ne trouve Dieu qu'en le cherchant toujours, précisément parce qu'il est toujours le plus grand, qu'il déborde sans cesse les saisies que nous pouvons avoir de lui. Ainsi donc, la réalité de Dieu demeure vraiment déconcertante pour notre pensée humaine. Le risque est de toujours présent de réduire à la mesure de notre intelligence ou de notre imagination ce qu'est Dieu. C'est dire que l'approche de la connaissance de Dieu requiert une rigoureuse hygiène de pensée, pour ne pas tomber dans des pièges de l'anthropomorphisme ou du scepticisme négateur, c'est-à-dire ne pas céder à la tentation de réduire Dieu à nos propres dimensions humaines, ou de conclure qu'il n'est inconnaissable et qu'il n'existe pas. Il faut savoir dépasser les étroitesses et les pauvretés de notre langage familier, aussi bien scientifique, pour emprunter la voie symbolique. On ne saurait en effet parler de Dieu et des choses de Dieu que par analogie, qu'avec l'aide de comparaisons et de symboles. Voilà qui nous permettrait de résoudre les difficultés et les méprises des intégristes ou des savants qui défigure Dieu ou le rejette. En vérité, dans les deux cas, on se trouve devant des idoles. Peut-être est-il inévitable que nous passions dans notre enfance une période où nous identifions Dieu aux images toutes humaines de notre jeune expérience. Peut-être est-il encore inévitable à l'adolescence que nous soyons tentés de réduire Dieu à la mesure de notre intelligence logique et de rejeter avec mépris, comme une régression infantile, le Dieu trop humain de nos jeunes années. Quoi qu'il en soit, le discernement des faux prophètes et des faux dieux s'impose toujours aujourd'hui comme au temps de nos ancêtres dans la foi. Si nous nous devons d'être athées devant toutes les idoles, et de refuser toute connivence avec ceux qui les fabriquent, il ne faut cependant pas pour autant cesser de chercher celui qui ne se trouve qu'en le cherchant toujours. Il faut résolument prendre le chemin de l'analogie. Il faut entrer dans le mystère. Le mot est lancé, le mystère. Dans le christianisme, qui est plein de paradoxes à propos de Dieu, évoquer le mystère peut apparaître comme un faux fuyant, une façon d'esquiver la difficulté intellectuelle qui demeure toujours. Même si nous prétendons rejeter à la fois l'illusion des fondamentalistes et l'absurdité que dénoncent les athées. Elle est lumineuse pour notre propos la distinction que faisait jadis Gabriel Marcel entre un problème et un mystère. Pour Gabriel Marcel, le problème, c'est quelque chose qu'on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagé, dont l'essence est par conséquent de n'être pas tout entier devant moi. C'est comme si, dans cette zone, la distinction de « en moi » et du « devant moi » perdait toute signification. Le mystère, c'est un problème qui empiète sur ses propres données, qui envahit ses propres données et se dépasse par lui-même comme simple problème. En d'autres mots, un problème est une difficulté qui tient à notre ignorance et qui peut donc se résoudre par le savoir, alors qu'un mystère est une difficulté qui tient à la nature ou à la chose et que la connaissance accroît. Les mystères ne sont pas des vérités qui nous dépassent, mais des vérités qui nous comprennent. Les mystères sont des problèmes que je n'arrive pas à placer totalement devant moi pour les comprendre, les prendre avec moi, parce que je suis moi-même inclus dans le problème, parce que je suis moi-même problématique. Et en ce sens, Dieu est nécessairement mystérieux. Sinon, il aurait la dimension de notre intelligence qui voudrait le comprendre par des preuves. Ce serait une idole. Ce serait une prétention abusive que de dire « il n'y a rien de plus conforme à la raison que de comprendre Dieu », alors que Pascal nous dit qu'il n'y a rien de plus conforme à la raison, de plus raisonnable que le désaveu de la raison, cette reconnaissance des limites de notre raison. En d'autres mots, le mystère n'est pas quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais quelque chose que je n'ai jamais fini de comprendre. On ne saurait l'identifier à l'absurde. Il est au contraire plein de lumière. Tout comme il existe des ultrasons que nos oreilles ne sont pas assez fines pour percevoir, il existe des ultra-raisons, pour ainsi dire, que nous n'avons jamais fini de découvrir. À l'opposé des problèmes qui requièrent du chercheur de l'objectivité, c'est-à-dire que le chercheur demeure lui-même à l'extérieur de la difficulté pour bien l'évaluer et la comprendre, le mystère demande au contraire, pour être saisi, qu'on ne demeure pas spectateur, mais qu'on y entre, qu'on s'y engage. Un peu comme la beauté des vitraux qui ne se découvrent et ne génèrent l'émerveillement que lorsqu'on se trouve à l'intérieur de la cathédrale. Il y a un danger latent, note Pierre-Charles, qui guette le croyant lorsqu'il se met à réfléchir, celui de considérer le mystère comme un problème et l'objet de la foi comme une doctrine. Car l'objet de la foi est plus qu'une doctrine. Il est une réalité et le mystère est plus qu'un problème. Il est un enchantement. Une doctrine ne demande qu'à être bien comprise. Un problème n'a besoin que d'une solution. Après quoi tout est fini et nous pouvons passer à un autre exercice. Mais une réalité, une chose, n'a jamais dit son dernier mot. Et un mystère est strictement inépuisable, source de perpétuelle inspiration. Et pour que le mystère ne dégénère pas en simple problème, pour que Dieu soit autre chose qu'un sphinx proposant des énigmes, il est nécessaire que l'immensité de la révélation ne soit jamais prisonnière de nos formules indigentes. La prétention du christianisme, c'est d'être une religion historique, à l'opposé des religions dites naturelles. Dans les religions naturelles, l'homme est à la recherche de Dieu. Dans la religion judéo-chrétienne, c'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler. C'est Dieu qui recherche l'homme. Le mouvement est contraire. Et là se trouve le paradoxe central, la réalité la plus déconcertante du christianisme qui s'exprime à travers trois grands mystères, l'incarnation, la résurrection et la Trinité. Voici quelques pistes pour donner le goût d'entrer dans ces mystères, de nous laisser inonder par leur intense lumière et d'accueillir l'ineffable rencontre qui s'y propose. Il y a d'abord la résurrection du Christ. C'est un mystère époustouflant, inouï, déconcertant s'il en est. Pensez donc, quelqu'un parmi nous a vaincu ce qui fait la difficulté ultime, la mort. Quelqu'un parmi nous a ouvert une brèche, une porte dans le mur qui barrait l'horizon de notre vie. Une porte que plus personne ne pourra fermer. L'amour s'est manifesté plus fort que la mort. Et dans le Christ ressuscité, chacun de nous est appelé à ressusciter à son tour et à vivre en plénitude pour toujours. Nous sommes vivants à jamais. Voilà l'événement le plus important de l'histoire. Voilà le noyau atomique de notre foi et de notre espérance chrétienne. Voilà le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul, notre foi est vaine, notre prédication est vide, nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. Buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Si le Christ n'est pas ressuscité, commente Jean-Yves Leloup, c'est-à-dire éveiller au monde sans mort, à quoi bon vivre, à quoi bon aimer, se battre pour la vérité et la justice, c'est la mort qui aura le dernier mot. Mais si le Christ est ressuscité, cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la bêtise, la violence et la décrépitude. Il n'est pas absurde d'aimer. L'amour est plus fort que la mort. La résurrection de Jésus, précise François Varion, n'est pas un prodige évident. Si elle l'était, où serait la liberté de la foi? Pourrions-nous croire encore en l'humilité d'un Dieu qui contraindrait notre raison? Ou faudrait-il déclarer inculte, ignorant ou de mauvaise foi ceux qui prétendent échapper à cette contrainte? Au vrai, l'Évangile post-pascal ne nous propose que des signes modestes qui sollicitent notre foi. Nul n'a vu Jésus sortir du tombeau. Il ne s'est pas montré ressuscitant. Il apprend simplement aux siens à le reconnaître ressuscité. On est ici à l'extrême opposé des mythologies. Rien qui évoque l'idée d'un Dieu mort qui prendrait sa revanche, éblouissant par une victoire éclatante ceux qui l'ont fait périr. Si, au mépris des textes, nous glissions vers une représentation de ce titre, nous faisons de Dieu à notre image, transposant en lui notre agressivité et notre rêve malsain d'une histoire dont à l'aide de merveilles supraterrestres il serait possible de s'évader. Jésus ressuscité confie aux apôtres la mission d'être les témoins de sa liberté. Il a vécu en homme libre et c'est parce qu'il est demeuré libre qu'il est mort. Ressuscité, il devient clair aux yeux de la foi que la liberté même de Dieu est la source de sa liberté d'homme. Le mystère de la résurrection de Jésus renvoie à celui de l'incarnation. Jésus ressuscité ne laisse pas d'interroger les hommes tout au long de l'histoire. On n'a pas fini d'explorer toutes les implications de l'événement unique de la résurrection. Tout au long de l'histoire de l'Église, la question de Jésus continue de se faire entendre. « Pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Quel est donc cet être qui a traversé la mort et qui l'a vaincu ? La réponse à cette question est des plus importantes que nous puissions chercher, puisqu'il y va de notre mort et de notre vie. La transmission des évangiles tout au long des siècles a amené les chrétiens à réfléchir, à vouloir expliciter les multiples richesses du mystère du Christ ressuscité, à recueillir ce qu'on pourrait appeler les retombées radioactives de la résurrection. La résurrection du Christ nous renvoie à l'incarnation, en attestant qu'en Jésus, c'est bien Dieu qui s'est approché de nous. Cette explicitation, qui est, selon Jean de Lumeau, le noyau dur de la foi, ne fut pas sans difficulté. Dès les débuts, on ne s'entend pas sur l'identité de Jésus. Les Juifs vont nier, comme le fera plus tard Nestorius, que Jésus soit vraiment Dieu. Alors que pour la gnose païenne, comme pour Arius, il n'est pas vraiment un homme. Le rôle des définitions dogmatiques que proclamera l'Église réunie en concile sera de clarifier, de confirmer la foi des chrétiens lorsqu'elle sera attaquée. Ainsi, notre credo précisera que Jésus est le Fils unique de Dieu, vrai Dieu, et qu'il a pris chair de Marie et s'est fait homme. En ressuscitant des morts, Jésus de Nazareth atteste donc qu'il est Seigneur, qu'il est l'Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est donc dire que Dieu a pris l'initiative d'entrer dans notre histoire, de faire irruption dans notre monde, de se donner littéralement des mains et des pieds pour nous rejoindre. Jésus s'est fait proche de nous au point d'assumer notre propre condition jusqu'à partager notre mort. Voilà ce que l'on entend par l'incarnation. En Jésus, la semence divine a été semée dans l'humain. Le très haut s'est fait le très bas. On peut dire que la résurrection, c'est l'incarnation qui produit son fruit. La recette pour ressusciter est facile. Prenez du divin, mettez-le dans de l'humain, comme une femme met du levain dans 3 mesures de farine, et laissez le tout travailler jusqu'à ce que l'éclatement se produise. Ainsi, Dieu est entré dans notre monde en Jésus, et il faut ajouter, il n'en est jamais sorti. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Notre monde est habité par la semence divine, par une source d'énergie inimaginable, plus forte que 1000 soleils, et qui ne demande pas mieux que d'éclater, de produire ses fruits de vie. Jésus est véritablement, comme le dit Urs von Balthasar, le cœur du monde, un cœur dont les battements propulsent partout un sang vigoureux et irriguent de sa vie tout le tissu humain. C'est dans un même mouvement de recherche et d'approfondissement du paradoxe de la résurrection et de l'incarnation de Jésus que se dégage le mystère de la Trinité. L'image de Dieu telle que nous la présente la vie et l'enseignement de Jésus est déconcertante et éminemment paradoxale. Un Dieu en 3 personnes, étrange. Cela défie toute logique mathématique. La Trinité nous fait découvrir un Dieu fou d'amour pour ses créatures qu'il destine à partager sa propre vie. Impensable, dirait Platon. Pourtant, c'est bien ainsi pour la foi chrétienne. Ce qu'il faut saisir clairement dans ce que Jésus, de par sa vie et ses enseignements, nous révèle de l'amour de Dieu, de l'amour qu'est Dieu, c'est tout d'abord que Dieu n'est pas un solitaire, n'est pas un vieux garçon, mais une communion de personnes. Et en un sens, le Dieu des chrétiens n'est pas l'absolu, qui veut dire l'isoler, le séparer, mais il est relation, ouverture aux autres. Jésus nous présente Dieu comme un mystère de relation, comme une trinité, un Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Dieu n'est pas un narcisse qui se contemple lui-même, qui s'admire lui-même, qui se saisit lui-même, qui s'absorbe lui-même, qui s'enchante de lui-même. Dieu est Père, Fils et Esprit. Un Père qui se donne tout entier dans son Fils, un Fils qui se remet tout entier au Père et un Esprit qui exprime la perfection de cette commune union du Père et du Fils dans une générosité créatrice. Aimer, c'est vivre pour l'autre, c'est le don, et vivre par l'autre, c'est l'accueil. Aimer, c'est renoncer à vivre pour soi, en soi et par soi. C'est là tout le mystère de la Trinité, nous dit le Père Varion. Dès lors, dire que Dieu est amour et dire qu'il est Trinité, c'est exactement la même chose. S'il est vrai que l'amour implique essentiellement la différenciation des personnes, ni fusion ni confusion, mais reconnaissance de l'autre qu'il s'agit d'accueillir et de rencontrer dans son altérité même. Jésus nous révèle encore que la Trinité n'est pas close sur elle-même. C'est la même générosité créatrice au cœur de la Trinité qui a fait naître et maintient dans l'existence notre monde et tout ce qu'il contient, ici encore sans fusion ni confusion. Dieu veut, et c'est son être même, son acte simple, éternel, que l'autre soit et que d'autres soient. Comme disait Teilhard de Chardin, l'amour différencie autant qu'il unifie. Le sens profond du devenir de la création va vers la différenciation, l'accueil de la différence. Ceci est particulièrement vrai pour l'homme que Dieu a créé, créateur, à son image, sa ressemblance, mais distinct de lui, centre d'autonomie et de liberté, et capable d'aimer, c'est-à-dire d'exercer à son tour une générosité créatrice, entrer en relation avec d'autres, se donner et accueillir l'autre dans le respect de ses différences. Selon Malraux, il existe deux manières d'être homme, cultiver la différence et approfondir la communion. Ainsi donc, Dieu n'est pas un solitaire isolé, tourné vers lui-même, mais essentiellement en relation. Le Père qui se donne au Fils, le Fils qui se remet au Père, dans un don et un accueil parfait qui est l'Esprit. Évoquant la très belle image de la périchorèse, le mot grec qui signifie la danse en rond, cher au Père de l'Église, pour signifier l'intense circulation de vie à l'intérieur de la Trinité, Julien Harvey écrivait ce texte que l'on peut considérer comme son testament spirituel. Je cite, « Si j'essaie maintenant d'aller plus loin dans ce qui est vif chez moi, en tenant compte de ce que j'ai déjà tenté de dire sur le Dieu proche, sur le Dieu frère et homme pour toujours, sur le Dieu amour et sur le Dieu vivant qui se donne, ne se donne que dans l'action, je suis ramené à vous parler le plus chaleureusement possible de ce que les pères grecs appelaient magnifiquement la péricorèse, la danse en rond. Dans les moments les plus forts de l'expérience que Dieu a bien voulu me donner de lui-même, c'est ce que j'ai expérimenté de façon inoubliable et transformante, l'expérience et la joie d'être entré dans la danse en rond de la Sainte Trinité, dans le mouvement même de la vie de Dieu. Karl Rahner exprime magnifiquement cela en des termes plus intellectuels, mais tellement proches de l'expérience, quand il dit, en se servant de quelques textes clés de l'Écriture, que par le même acte par lequel le Père se dit éternellement et nécessairement dans son Verbe, et retourne à lui-même dans l'amour qu'est l'Esprit et vit, par ce même acte, il a voulu librement se dire dans le temps et l'espace et le fini. Et à ce moment, ce qui est apparu, c'est l'homme, d'abord l'homme Jésus-Christ, et les autres hommes pour qu'ils soient d'abord des frères de Jésus-Christ. Et dans cet élargissement de la famille de la Sainte Trinité, pour reprendre les mots d'Augustin, il a lancé le mouvement absolu de la vie en le faisant participer à nous et à moi parmi les nous, participer du mouvement de sortie de lui dans la communion, mouvement de retour à lui dans l'amour. Cela, dépouillé de ses articulations intellectuelles rugueuses, est pour moi l'expérience de Dieu, l'expérience de la danse de vie et d'amour éternel, qui est la vie même de Dieu, dans laquelle je suis engagé depuis mon baptême, et qui inclut tous les hommes et toutes les femmes de l'histoire, à moins qu'ils ne le refusent explicitement. D'où pour moi une impossibilité de dissocier l'expérience de l'amour de Dieu en Jésus et l'expérience de l'amour du prochain, les deux commandements liés par Jésus en un seul ont pour moi leur correspondant dans une seule expérience qui les inclut tous les deux.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.